dois dire que j'en ai aussi profité parce que je suis un grand fan du trombone. Alors, je n'ai pas un peu choisi cette chanson pour hasard non plus. Alors, ce semestre-ci, au CULCAD, on a commencé un peu notre thème officieux, non officiel. C'est un peu faire des études rabbiniques. C'est pas la première qu'on va faire aujourd'hui. Je crois que c'est la troisième. Souvenez-vous un peu ce que c'est qu'une étude rabbinique. Souvenez, on fait ça en trois étapes. Est-ce que vous vous souvenez quelles sont les étapes? La première, qu'est-ce qu'on doit faire? On lit. Alors, je suis allé un peu vite. En fait, d'abord, on se met par duo, trio, si on n'a pas le choix. Et puis après, on commence les étapes. Par exemple, si je suis avec Claude, d'accord, je lis d'abord le texte pour moi. Claude lit le texte pour lui. Ensuite, je lis le texte pour Claude et Claude le lit pour moi. Ça, c'est la première étape. Et si vous avez la possibilité d'avoir le même texte, pas deux textes différents, mais deux versions différentes de texte de la Bible, par exemple une seconde 21 ou ce Louis Sogon ou Parole de vie, ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que quelqu'un a... Je sais que vous savez. Un partage. On partage sur ce texte, on peut lancer des réflexions, des questionnements, tout plein de choses, tout ce qui vous vient par l'esprit autour de ce texte. Si vous êtes coincé par une question, il y aura quatre rabbins qui seront là aujourd'hui, pour vous, rien que pour vous. Il y en aura trois en tout cas qui seront pour sûr assis sur une chaise, et au moins un, voire deux, qui pourront se balader parmi vous, et vous pouvez les interpeller, ou eux, ils peuvent aussi avoir la liberté de venir un petit moment se joindre à vous. Voilà, si vous êtes bloqué par les questions, ou si vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas de questions forcément qui viennent, ou de réflexions, n'hésitez pas aussi à aller les voir pour qu'ils vous donnent une piste de réflexion si vous avez besoin. Et la dernière étape finale, c'est de réfléchir sur les réflexions pour en tirer des perles. Donc, voilà. On en tirer un enseignement, quelque chose de spécial, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez reçu. Voilà, n'hésitez pas à partager entre vous. Et ensuite, une fois que ça sera fini, on pourra passer un moment de micro libre où je passerai parmi vous, si vous voulez partager à haute voix, au micro, une ou plusieurs perles que vous avez reçues pendant ce temps. Voilà. Alors, on a imprimé pas mal de petits billets avec les versets dessus. Donc les versets, c'est Galates 3, versets 12 à 14. Donc, est-ce que Priscille, ça joue pour toi de les distribuer? Pour ceux qui n'ont pas pensé à prendre la Bible, merci. Et j'invite les rabbins à venir me rejoindre sur scène. Donc j'invite Marie Asper, Claude Becher, Jean-Jacques Mélan et Jean Villard, s'il vous plaît. Je pense que l'écart est peut-être un peu plus, s'il y a du monde. Voilà, et... Voilà, maintenant que tout le monde est prêt, je vous invite à vous mettre par groupe de deux, en duo ou en trio, si en fonction de la rangée, si vous n'avez pas le choix.
Merci. Bon, il en faut bien. Je vois que ma sœur me regarde avec interrogation, d'un air de se dire, c'est toujours lui qui la ramène, mais il en faut bien un, et j'espère que ça vous donnera aussi des idées pour vous exprimer. En préambule, je dirais que ma foi se nourrit du fait que le 95% de mes questions n'ont pas de réponse et je dois vivre avec le 5% restant. Et ce 5%, pour le moment, me remplit. Mais il reste quand même le 95%. Et là-dedans, il est vrai que la première phrase qui dit que la foi ne s'appuie pas sur la loi, C'est exactement ça. Et la loi ne s'appuie pas sur la foi. On ne demandait pas de l'Ancien Testament d'avoir des états d'âme, de se convertir, de penser au paradis. À mon sens, pas. On demandait d'obéir à la loi. Et peut-être que la différence fondamentale avec la Nouvelle Alliance, c'est qu'on introduit l'élément de foi, l'élément d'amour, la notion d'amour. J'ai l'impression que tout l'Ancien Testament, mis à part quelques visions prophétiques d'Ésaïe ou de David, mais tout l'Ancien Testament n'a pas d'état d'âme. On demande d'obéir à la loi, et si on obéit à la loi et qu'on la respecte, on aura un pays, on aura une sécurité, on aura à manger. C'est peut-être la différence fondamentale. À part ça, il y a la malédiction du bois de la croix. Alors ça, c'est une question absolument spécifique. Est-ce que le fait de mourir, non pas décapité, jeté au lion ou de différentes manières, toutes plus sympathiques les unes que les autres, était différente foncièrement du fait d'être attaché ou cloué à une croix? Ça, c'est une question spécifique. Voilà. Deux questions parmi d'autres, mais pour lancer la discussion.
Merci beaucoup. Pour faire bref, l'important n'est pas du tout le fait qu'il y ait une croix ou un gibet, etc. L'important, c'est qu'il s'agit d'un pécheur qui est condamné à mort, justement condamné à mort, et ensuite on expose son cadavre. Alors le texte du Deutéronome dit... Si quelqu'un est pendu au bois pour cette raison, il ne faut pas le laisser plusieurs jours. Il faut, avant le coucher du soleil, l'ensevelir. Parce que c'est une image du mal qui a quelque chose d'horrible et qui pourrait laisser entendre que le mal triomphe en quelque sorte. Il faut supprimer cette image du mal, enfin la faire disparaître. Voilà. Mais si le châtiment ordinaire se faisait par le glaive, ben on ne parlerait pas du bois, n'est-ce pas ? Mais on dirait peut-être, si un condamné à mort a eu la tête coupée, ben il ne faut pas laisser son cadavre exposé pendant plusieurs jours. Voilà, c'est ça l'essentiel. Maintenant, quant à l'autre question, la loi et la foi, tu as parfaitement raison de dire... que la loi, je dirais, le régime de la loi est un régime d'obéissance adressé à un peuple précis qui est le peuple d'Israël. Mais alors, le salut par la foi apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Justement, avant qu'il y ait ce régime de la loi, il y a déjà Abraham qui a été justifié par la foi. Donc, on voit bien que ça, c'est... Premier, fondamental, le projet essentiel de Dieu, c'est de sauver les hommes par la foi. Mais il a fallu le régime de la loi pour montrer qu'ils avaient besoin d'être sauvés, notamment, hein, pour mettre en évidence la désobéissance, le décalage complet entre la manière de vivre ordinaire et le plan de Dieu. Mais c'est un régime provisoire, préparatoire, qui permet l'épanouissement, le rayonnement de la grâce saisie par la foi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser.
Merci. Quelqu'un d'autre est intéressé pour avoir le micro ? Alors, honneur aux dames.
Oui, alors nous, on a trouvé que c'est en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Et ça, à l'époque, ça a dû être... Une ouverture magnifique. C'est un esprit déjà ouvert. C'est pas, on se disait, un canal de Corinthe qui a deux murs et puis il y a que cette loi qui dicte et puis il y a rien pour ouvrir. Là, ça a déjà ouvert.
Merci.
Oui, on n'a pas dit maintenant, mais peut-être qu'il faut ajouter quelque chose à ce qu'a dit Jean-Luc. Il me semble qu'il n'y a pas seulement une observation stricte, légaliste, une obéissance sans amour, sans conscience de l'amour, ne serait-ce qu'à lire le psaume 119, où on sent un amour de Dieu, un amour pour Dieu, un amour pour sa loi, qui montre bien que c'était déjà fondamentalement l'amour qui remplissaient ses commandements et ceux qui voulaient bien essayer de les suivre.
Merci. Quelqu'un d'autre ?
Alors, de mon côté, on s'est beaucoup posé la question de savoir malédiction, bénédiction, où est-ce qu'on va avec tout ça ? Et puis, la question de la loi, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, dans nos réflexions, on s'est dit la loi, c'est aussi être en action. Et quand on est en action, on se coupe de Dieu. D'être que dans l'action, si on n'est pas en relation avec Dieu, on se coupe de Dieu. Et puis, donc voilà, nous, on est beaucoup dans l'action dans notre vie de tous les jours. Donc moi, ce que je prends pour moi aujourd'hui, c'est que d'être dans l'action, ça me coupe de ma relation avec Dieu. Et que pour être en relation avec Dieu, ben, il faut que j'arrête d'être dans l'action et que je sois peut-être dans la prière ou dans la méditation. Ou que je cherche à rejoindre Dieu. Lui, il veut toujours être en relation avec moi. C'est moi qui me coupe de lui quand je suis dans l'agir et dans finalement respecter les lois. Alors, on respecte les lois au mieux qu'on peut, mais voilà. C'est lui, il fait que finalement, même quand on n'arrive pas à respecter les lois, il est quand même en relation avec nous. Voilà.
Merci beaucoup. Quelqu'un veut encore prendre la parole ? Bon, merci beaucoup en tout cas. Ah, oui.
Alors, on était touchés beaucoup par le seul moyen d'accomplir un peu la loi, mais sachant que Jésus l'a accompli. Et il a été fait malédiction pour donner la possibilité universelle de d'être pardonné et d'avoir le salut. Et l'esprit, c'est le seul moyen qui peut toucher un être humain pour savoir, pour reconnaître ce besoin. Et pour reconnaître que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça qui montre effectivement que la Bible, c'est la vérité, parce que c'est juste, parce que c'est universel, parce que ça n'exclut personne. L'essentiel, c'est que chaque personne reconnaissent que Jésus était le seul chemin et que c'était lui qui s'est sacrifié et que c'était lui qui a accompli tout.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au rabbin maintenant si vous voulez partager quelque chose de manière assez succincte.
Oui, je crois que vous avez perçu la richesse de ce texte et les questions centrales de ce texte. Je reviendrai sur l'idée totalement paradoxale de la malédiction de la loi. Pourtant, la loi a été donnée par Dieu. Donc, comment peut-on dire qu'elle est devenue malédiction ? Alors, j'ai pris une petite image en parlant des relations parents-enfants. Les relations parents-enfants sont inscrites aussi dans des cadres. Les parents donnent toute une série de cadres éducatifs à leurs enfants. Mais l'essentiel des relations parents-enfants, elles sont construites sur la relation, c'est le cas de le dire, et l'amour. Par contre, quand le cadre supplée l'amour, quand le cadre est plus grand que la relation amoureuse, ça se trouve hein, dans certaines familles où finalement la discipline familiale est plus stricte que la présence affectueuse et les relations affectueuses, alors c'est là que la loi devient vraiment quelque chose de destructeur. Il y a deux raisons très précises qui permettent de dire que la loi est destructeur. Un, c'est la règle d'une partie pour le tout, et deux, c'est la règle de l'inflation. Alors, la règle d'une partie pour le tout, c'est de dire, si je transgresse un commandement, en fait, je les ai transgressés tous. Alors, bonjour à celui qui peut dire qu'il n'en a transgressé aucun. Puis la règle de l'inflation, c'est celle-ci, si vous croyez que vous êtes justifié par la loi, il n'y aura aucune limite à vos exigences morales, aux exigences morales qui reposeront sur vos épaules. Et je lisais encore cette semaine la biographie d'une femme dont le mari était devenu un religieux fervent en Israël, eh bien cet homme, il n'y a pas eu de limite dans son désir de faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, parce que c'est là qu'est investie toute l'angoisse, son angoisse de recherche du salut. Donc voilà, c'est ces deux règles qui font que la loi, comprise comme étant source de salut, est malédiction.
Il y a une image derrière ce développement, à cet endroit de l'Épître aux Galates, qui nous est un peu étrange. Comment on passe d'une idée à l'autre ? Quelle est la logique derrière ? Maintenant, le problème, voilà des disciples de Jésus, certains d'origine juive, d'autres d'origine païenne. Certains étaient déjà ouverts au monothéisme, et tout cela doit faire l'ecclésia du Seigneur, c'est-à-dire la synagogue de Jésus, si vous voulez, c'est l'Église, hein ? Ensemble. Seulement, il y a un problème, c'est que moi, juif, je ne mange pas avec toi parce que tu n'es pas d'origine juive. Donc ma loi, elle me coupe de toi et elle casse le projet de Jésus le Messie. Vous comprenez ? Maintenant, il y a toute une démonstration, et nous en avons parlé. Abraham a été sauvé en vertu de la foi et cela lui fut imputé à justice, sa foi, avant toute la législation mosaïque de comment on vit ensemble. Qu'on peut trafiquer dans tous les sens d'ailleurs. Même les 10 commandements, on peut les trafiquer. Alors, j'aimerais vous montrer maintenant une image. On est en Galatie, c'est la Turquie actuelle, mais c'était la Grèce dans le temps. Regardez cette image. Voici un temple. Ce temple est à Delphes. La Pythie de Delphes, ça vous dit quelque chose peut-être les uns ou les autres ? C'est le socle du temple d'Apollon. Moins 600 ans avant Jésus, premier, un temple grec. Alors, quelle est la relation avec les Galates ? Maintenant, si vous regardez le socle, une petite vue rapprochée, vous voyez des inscriptions. Il y a plus de 800 noms d'esclaves. Un esclave en Grèce ne peut jamais être totalement affranchi. Il peut être plus sage que le maître, il peut être très riche, il peut être libre, mais il reste esclave. Les enfants des esclaves sont des esclaves. Donc ici, comment on peut affranchir un esclave ? En le faisant esclave d'une divinité. C'est seulement comme ça qu'un esclave peut être relativement affranchi en devenant esclave d'Apollon. Ces gens-là ont été affranchis d'un esclavage de gens concrets en devenant, et c'est une sorte de tour de passe-passe, esclave d'Apollon. Ici, la logique est la suivante. Le prix de l'affranchissement, le prix de la rançon, c'est Jésus lui-même, tant pour les juifs que pour les non-juifs. Les deux sont perdus. L'un parce qu'il n'a pas accompli la loi qu'il connaît, l'autre parce qu'il ne la connaît pas et il pêche de toute façon. Donc, pied d'égalité, le projet de Paul dans la démonstration des Corinthiens, c'est un prix a été payé pour que tu deviennes libre. Mais libre, c'est-à-dire esclave du Christ. C'est la raison pour laquelle vous avez la fin. C'est ainsi nous recevrons par la foi l'Esprit objet de la promesse. C'est-à-dire tant juifs que non-juifs, sans l'Esprit Saint de Jésus opérant en eux, ils n'accompliront pas la volonté de Dieu, ils n'accompliront pas la Torah. La Torah, précisément, c'est de ça dont on parle. La Torah, ça veut dire la loi de Dieu. C'est pour ça que je l'appelle la volonté de Dieu. Donc, je ne sais pas, nous, il y a une sorte de transposition d'un monde qui nous est étranger. Nous n'avons plus un marché d'esclaves à Lausanne, quoique. Quoique. On peut en parler. Mais vous saisissez, le prix à payer, et en même temps, le nouveau maître de maison s'appelle le Messie. Paul leur dit, mes amis, sans le Messie, nul ne peut rentrer dans le projet de Dieu. Nul ne peut faire la Torah et il faut l'esprit du Messie. La Pentecôte est un rappel, un renvoi au Messie, à son projet. Voilà l'image qui me semble voir derrière quand il est question de prix à payer et de l'esprit de Dieu.
Peut-être une petite clarification. Il faut toujours mettre les choses en perspective. Et c'est vrai que ce texte, il est un peu polémique contre le judaïsme rabbinique. Alors, Claude vient de le dire, que c'est un lieu commun pour nous de dire qu'Abraham a été sauvé par la foi. Eh bien, il faut savoir que dans le judaïsme, Abraham est sauvé par son obéissance à la loi. J'ai un commentaire rabbinique à la maison qui me dit clairement que Abraham n'est pas du tout sauvé par la foi, mais il est sauvé par son obéissance à Dieu au travers de ce qu'il a, oui, son obéissance aux exigences de Dieu. Donc le fondement même, c'est là que se situe la bifurcation entre le judaïsme rabbinique et puis notre compréhension chrétienne.
Merci beaucoup. Merci à nos quatre rabbins. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Merci à vous aussi qui avez fait ce message. C'est vous qui avez participé. C'est vous qui avez pu permettre ça, cela. Puis, au nom de l'équipe Cadet, je vous remercie d'être aussi assidu puis participer à ces études rabbiniques. Pour conclure ce temps avec l'étude, je vous propose on a eu beaucoup de choses, on en ressort grandi, on a eu beaucoup de fruits, et puis je vous propose de faire un chant de reconnaissance. Alors je demandais à l'équipe de louange de bien revenir sur scène, puis j'aurais demandé un petit exercice assez difficile, j'aurais demandé que ce soit vous, personne de l'assemblée, qui puisse choisir le chant dont ils ne connaîtront pas, donc d'être assez indulgent avec eux s'ils connaissent pas le chant, voire même de changer si c'est un chant trop difficile. Est-ce qu'il y a une personne qui a... Je n'ai pas entendu, plus fort. Alors, numéro 149, dans les gemmes 1, je marche avec Jésus. Est-ce que ça... Je ne connais pas non plus. Est-ce que...